Et ça fait, vous savez, le bruit de l'eau. Et ils se sont tous relevés. Moi, j'ai rafalé. Alors, Piang lui a dit, eh ben, on est Viet. Au bout d'un moment, il leur a dit, mais c'est pas possible, parce que les Viet, ils n'ont pas tous des pistolets mitrailleurs. Et il a sorti son pistolet, et donc, ils l'ont tué, quoi. Il ne restait plus rien de lui. Les fourmis l'avaient mangé, complètement. Il ne restait que le squelette. Donc, on a récupéré la vieille, cette pauvre vieille-là, et en redescendant sur un bambou avec, dans une toile, bon, elle est morte. Mais voilà, voilà la vie qu'on menait. Je suis un ancien militaire. Je suis rentré dans l'armée en 1947. Je me suis engagé donc pour 3 ans. Et au titre d'une école, l'école de Langenergen, qui se trouvait en Allemagne, un peu moins d'un an entre l'école et les classes, d'abord l'école par la suite, j'ai été désigné pour servir en Extrême-Orient. J'ai été envoyé dans un centre de regroupement, qui était à l'époque, c'était Lyon. Et donc, ils regroupaient tous les gens, les isolés, ça s'appelle les isolés, puisque j'étais seul. Et j'avais des frères, donc un qui a été dans le maquis, un autre a été ailleurs, dont je ne parlerai pas. Il a été tué à Berlin, en 1945. J'ai été dirigé sur Marseille, à partir de Lyon, et pour embarquer, donc, en direction du Vietnam. À l'époque, on appelait l'Indochine. J'ai embarqué sur Pasteur, en fin 48, et on a quitté la métropole, donc on était très nombreux à bord, très nombreux. À l'époque, c'était vraiment le grand moment de la militarisation des opérations en Indochine. Et donc, sur le bateau, il y avait des goumiers, il y avait toutes sortes d'unités. On était plusieurs milliers, voilà. Et donc, on a quitté la métropole, on est arrivé donc à Saigon, une partie des gens ont débarqué, et moi j'ai eu la chance donc de continuer le voyage jusqu'à Haïphong. Voilà. Alors, arrivé à Haïphong, on arrivait un peu comme sur la Lune, puisqu'on arrivait dans un pays asiatique. Moi, je venais évidemment de ma Dordogne natale. J'avais jamais vu autant d'Asiatiques. Et donc, bon, ben voilà, on était tout jeunes. Moi, j'avais 19 ans. Je me suis retrouvé donc quelques jours plus tard à la citadelle d'Hanoï où on était sans affectation. Et petit à petit, tous les gens qui étaient avec moi c'était des artilleurs, ils partaient dans l'artillerie. Comme moi, j'avais pas de spécialité particulière. Quelqu'un est passé en disant, voilà, moi je cherche quelqu'un pour la zone nord-ouest. Je ne savais absolument pas de quoi il s'agissait. Hein, et donc, je me suis porté volontaire. Alors, la zone nord-ouest, c'est le nord du Vietnam. Le pays s'appelle le pays Thaï. Hein, c'est un lieu que le Viet Minh n'avait jamais occupé. Donc, le pays Thaï, c'est la frontière du nord, c'est avec la Chine, c'est le Yunnan. À l'ouest, c'est le Laos. Hein, et à l'est, donc, c'était le fleuve Rouge. Le fleuve Rouge, c'est un fleuve très large, ce qui servait en quelque sorte de frontière. Donc, le pays Thaï allait de là, donc de la frontière de Chine, jusqu'au delta du fleuve Rouge. Voilà. Et donc, j'étais affecté au 1er bataillon Thaï. J'étais sergent. Il n'y avait aucune route qui arrivait au pays Thaï. Donc, tous les gens qui arrivaient là-bas arrivaient en avion. C'est en opération, comme ça s'est passé par la suite en parachute. Sans ça, on était aérotransportés. Il y avait 3 bataillons. Il y avait le premier, qui était à la capitale, qui était au nord. À l'est, donc, où j'étais, c'était le 1er bataillon. Et à l'ouest, c'était le 3e bataillon. Qui était d'ailleurs créé par le général Bijat. Il était capitaine à l'époque. L'encadrement européen de ces bataillons était très léger. On était une quinzaine par bataillon. Hein, on était très léger. Moi, j'étais donc chef de section, sergent, j'étais chef de section, et donc j'ai commencé à faire mon apprentissage hein, de guérillero. Parce qu'au Pei Tai, c'est là où s'est passée la fin de la guerre. Par exemple, Dien Bien Phu était au Pei Tai, voyez. Hein. Avant Dien Bien Phu, il y a eu Nasan qui était au Pei Tai. Ce sont les grandes batailles hein, qui ont terminé la guerre d'ailleurs. Mais à l'époque, le Pei Tai donc était relativement tranquille. Moi, j'ai eu donc la chance d'avoir tout de suite un petit commandement, mais une section, c'était des tirailleurs. C'était des soldats réglementaires, donc de l'armée française, qui étaient des Thaïs également. Alors, il y avait deux sortes de soldats, là. Il y avait donc l'armée régulière Thaï, et il y avait les partisans. Et au bout d'un certain temps, le commandement a décidé que, plutôt que de rester avec les tirailleurs, je prenais donc un commandement donc avec les partisans. Mais moi, ils étaient déjà là quand je suis arrivé, quand j'étais affecté. Donc je les avais choisis parce que, bon, parce qu'ils me plaisaient. Hein, ils avaient l'air solides, ils n'étaient pas trop couillons, tout ça. Les partisans, donc, c'était des gens qui n'étaient pas militaires. C'était une sorte de guérillero, vous voyez, qui n'était pas géré par l'armée française, mais mis à la disposition de l'armée française et encadré par l'armée française. J'ai eu des missions, donc, des missions de renseignement, d'éclairage et de reconnaissance, et de guérilla en zone Viet. Donc, la mission, c'était d'éclairer, c'est-à-dire le commandement, de savoir ce qui se passait dans les zones donc, non occupées par les Français. Alors, mon commando, que j'avais formé d'ailleurs, hein, qui était peu nombreux, c'était 15 hommes seulement, mais en jungle, là-bas, c'est que de la jungle. Il faut savoir que c'est la montagne. Alors, à l'endroit où j'étais, c'était encore la moyenne montagne. Plus au nord, les gens ignorent souvent, vous avez une montagne qui s'appelle Fansipan, qui fait presque 4000 mètres. Les gens s'imaginent que le Vietnam, c'est un truc plat, hein, vous savez. Bon, mais c'est très montagneux. Déjà, on avait contre nous les MAN, qui étaient du côté Viet Minh. Enfin, je dépendais de deux points d'appui, hein, qui étaient les plus au sud. Donc, au sud, c'était Viet Minh. Hein, et à l'est, c'était Viet Minh. Donc, l'éclairage se faisait. Donc, il fallait, pour ce qui me concernait, les missions qu'on me donnait, c'était de faire des déplacements. Donc, en zone Viet, hein, pour voir ce qui se passait, éventuellement ramener soit des prisonniers, soit des renseignements. Donc, il n'est pas nécessaire d'être nombreux, parce que c'est que des pistes de montagne couvertes de végétation. Là-bas, c'est que de la végétation. Donc, le gros de la verdure, c'est du bambou. Toutes les vallées, la moyenne montagne, enfin, moyenne altitude, c'est du bambou, après forêt primaire, et au sommet, chez les Méos, c'est de l'herbe. Enfin, des herbes qui font 1 mètre à 2 mètres de haut. Hein. C'est là où se fabrique l'opium. Les Viet occupaient le sud, hein, le sud jusqu'à au nord du delta tonkinois. Et donc, les missions qu'on me confiait, c'était donc d'aller le plus loin possible, de faire des prisonniers ou de ramener donc des renseignements. Donc on ramenait du papier, on ramenait des prisonniers, et tout ça c'était interrogé. J'ai fait ça pendant 1 an et demi, 2 ans quoi, même presque 2 ans. J'avais repéré donc sur une piste de montagne, au milieu des bambous, j'avais repéré donc une personne hein, qui était devant moi. À l'époque, bon, je courais bien, j'avais essayé de l'attraper. Donc il s'était rendu compte que je courais, et il savait très bien que j'étais un Européen et lui c'était un Viet. Donc quand il s'est rendu compte que j'étais seul, puisque j'avais laissé mon commando derrière, qui me suivait, mais j'étais parti en courant. Et lui, sur le bord de la piste, il a trouvé une touffe de bambou, le bambou tout partout. Et donc, il s'était caché. Il a eu le réflexe de se cacher derrière la touffe de bambou. Et au moment où... Donc, moi, la montagne, ça tourne. Hein, au moment où je passais sous la touffe de bambou, il m'a sauté dessus. Alors, j'étais armé d'une Thompson. Thompson, c'est un pistolet mitrailleur américain. Et donc, il m'a pris mon pistolet mitrailleur. Hein, et donc, moi, j'avais la courroie, lui, il tenait l'arme. C'est à ce moment-là qu'il a sorti son couteau et qu'il m'a donné un coup. Ouais, comme ça, ici sur la main, ça m'avait coupé toutes les veines, là. Voilà. Oui, oui. Et donc, mes gars sont arrivés. Donc, bon, ben, le gars, voilà, on lui a réglé son compte. On n'a pas pu le garder prisonnier. Moi, je ne suivais pas les pistes, parce que les pistes, c'était dangereux. Moi, je ne faisais que de la jungle, c'est-à-dire de hors piste. Et donc, là, on faisait... C'était à flanc de montagne. C'était une montagne qui nous séparait du delta tonkinois et du fleuve rouge. Et donc, ça, c'était en début 51. Les gars qui étaient avec moi, mes partisans, donc, hein, me disent tout d'un coup, « Sep, sep, il y en a le riz, là, sur la piste, il y a le riz qui pousse. » Vous voyez ? Donc, ils avaient découvert que sur la piste, il y avait du riz qui commençait à germer. Hein. Alors, comme c'était une piste qu'on n'avait jamais pratiquée, qu'on n'avait jamais suivie, on s'est dit, bon, elle mène quelque part. On a débouché sur un dépôt de riz. Il devait y avoir au moins 5 à 6 tonnes de riz qui étaient installées, hein, dans des grands cylindres en bambou tressé. Ça s'appelle du kéfen, vous savez, qui est tressé ensemble. Et c'était monté sur pilotis. On a essayé d'attraper des gars qui sont partis, les gars qui gardaient ce silo-là. Bon, on leur a tiré dessus, on n'est pas allé au résultat, on n'a pas su. Et moi, j'ai attrapé donc la responsable du... C'était une femme qui avait grade d'officier de l'armée Viet Minh et que j'ai ramené prisonnier. Voilà. Et donc, ces dépôts de riz, quand j'étais prisonnier moi-même, hein, eh bien, sur le bord des pistes, pour nous ravitailler, on s'arrêtait tous les 3-4 jours dans des grands dépôts identiques. Et donc, ce dépôt de riz, je l'ai signalé au commandement. Parce que ça signalait qu'il allait y avoir un passage donc, venant donc, de la rive donc, est du fleuve Rouge, enfin, de notre côté est, et qu'ils allaient venir en pays taille, voilà. Alors, je ne sais pas si le commandement a tenu, ou si ça a été bombardé ou quoi, mais nous, on n'a pas pu ni l'incendier, puisqu'on n'avait pas de quoi, hein. Et en plus, on ne pouvait pas rester sur place, on n'était pas assez nombreux. Vous voyez, on n'était pas une unité offensive, on était simplement une unité de reconnaissance. Voilà, donc, vous voyez le type d'incident. Et donc, j'ai ramené cette fille-là. Je me souviens quand je l'ai attrapé, parce que ça j'en parlerai aussi, je l'ai attrapé par derrière et le vêtement qu'elle avait s'est tout déchiré. Donc le dos était à nu. Mais là-bas, moi j'ai connu ça puisque nous on a vécu ça, là-bas il pleuvait énormément, c'était très très humide et nos vêtements se moisissaient sur nous. Le vêtement de la fille était complètement moisi. Le tissu était, vous voyez, c'était de l'eau, là-bas il pleut beaucoup, bon, et puis en forêt c'est humide, et tout, il y a des sangsues, il y a des moustiques, il y a tout, voilà. Et donc, cette fille, donc, je l'ai ramenée, alors elle a été questionnée, évidemment, moi je ne l'ai pas interrogée, ce n'était pas mon truc. Et donc, voilà encore une opération. Bon, je peux en citer une autre. On m'avait demandé, donc il y avait une unité qui venait donc du sud du delta et qui devait faire des opérations donc dans la partie qui était au sud du pays thaï. Et chaque fois que cette unité arrivait, hein, ils étaient signalés de telle sorte que chaque fois qu'ils voulaient pénétrer, hein, ils trouvaient personne parce qu'ils avaient été signalés. Alors moi on m'a demandé d'aller voir où était le chouf. Le chouf, c'est... Vous savez, c'est un mot arabe. Hein. Bon, où était donc le poste de guet, hein, de manière à ce que les gens ne se présentent plus devant lui, parce qu'il y avait une piste qui arrivait. Hein. Alors, donc, moi, j'y suis allé. Et alors, on a tourniqueté un peu en rond dans la jungle, hein, pour essayer de trouver la piste qui menait donc à ce poste de surveillance. Et on a trouvé un gars qu'on a questionné, on l'a fait parler. Avec moi, j'avais un Européen qui était exceptionnellement, qui était venu avec moi. Je suis parti tout seul, hein, avec ma Thompson. Hein, et moi, nous, on était habillés avec des vêtements civils. Hein. On n'était pas, on n'avait pas d'uniforme, les partisans n'avaient pas d'uniforme. Et donc, je suis allé, j'ai traversé la rivière, j'ai pris la piste, et puis je suis monté en direction, donc, comme avait indiqué le chouf, là. Et effectivement, je suis arrivé au chouf. Et ils étaient quatre, avec un gros tam-tam. Comme j'avais traversé le cours d'eau, j'avais de l'eau dans des espèces de baskets, parce qu'on achetait des chaussures chinoises, des baskets à l'époque, bon, c'était des trucs... Et ça a fait, vous savez, le bruit de l'eau. Et ils se sont tous relevés. Moi, j'ai rafalé. Alors... je continue l'incident, donc moi j'étais tout seul là. Hein. Et donc il y en a un qui s'est échappé. Donc les autres, le problème était réglé. Hein. Et donc mes gars sont arrivés par la suite pour c'était un tam-tam, un gros tam-tam qui signalait donc l'arrivée donc d'une patrouille ennemie. Enfin bref, hein. Le tam-tam c'était boum, boum, boum. Boum, 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 et répété. Et ça s'entendait à des kilomètres et des kilomètres. Et donc, quand quelqu'un se présentait donc, hein, pour rentrer dans cette vallée, hein, il signalait, vous voyez, donc, voilà. Et celui qui est parti, je l'ai suivi. Je l'ai suivi, je suis descendu. Il est descendu dans la forêt, je l'ai suivi, il est arrivé dans un ruisseau. Et donc, je voulais l'attraper pour faire prisonnier, puisque faire parler. Hein. Et donc, il partait en courant. Hein. Donc, je lui ai demandé d'arrêter. Toi, toi, toi. Et donc, il ne s'arrêtait pas, j'ai tiré, et j'ai réussi quand même, à un moment donné, bon, j'ai réussi à l'avoir. Je lui ai mis une balle dans la main. Voilà. Alors, bon, mes gars m'ont suivi, donc ils ont fini le travail, c'est-à-dire ils ont détruit le tam-tam, et bon, voilà. Et puis ils m'ont retrouvé dans le ruisseau. Et dans le ruisseau, donc, le gars, j'avais ce gars-là qui saignait, et je vois un de mes partisans qui s'occupe de lui, tout particulièrement, quoi. Alors, au bout d'un moment, je lui pose la question, je lui dis, tu le connais? Il dit, oui, c'est mon père. Vous voyez, la situation. Alors on lui a fait un bon pansement et tout, hein, avec la sulfamide, parce qu'on avait des trousses de pansement américaines. Hein. Et donc on lui a fait un bon pansement et puis on l'a renvoyé, quoi. Voyez. Donc c'était la vie de ce commando. Et donc on était en permanence, pas tous les jours, de temps en temps on se reposait quand même. Voilà. Dans le secteur qui était tenu justement par des partisans, c'était les partisans Yaisho. Partisans de Leicho. Il y avait un village qui s'appelait Lankoy, et donc qui était protégé par un point d'appui qui avait été mis là au début de 49, début 50. Et donc, comme c'était un coin qui était difficile à défendre, le commandement l'avait replié. Le village n'étant plus protégé, les Viettes sont venus et ont tué le chef de village. Ils ont tué le chef de village et ils ont incendié Lankoy. C'était un beau village, c'était joli comme tout. Et les paysans du village avaient perdu tout leur ravitaillement qui était dans les maisons, vous voyez, dans les cagnards, quoi. Hein. Et donc le commandement me dit, voilà, ben, bon, vous allez là-bas avec le commando, et puis vous restez avec eux. Hein, il faut les protéger, voilà. Et donc, je suis allé, donc, et je me suis retrouvé tout seul comme Européen. Ben, à l'époque, j'avais 20 ans, ça devait être en 50, oui. Et donc, on était dans la jungle, donc ils avaient fait des cabanes à peu près un kilomètre de leur village, dans la jungle, et on allait faire des, en zone viette, donc voler du riz sur pied, on allait la nuit avec les paysans pour essayer, donc qu'ils trouvent à manger, quoi, voilà. Et donc je suis resté entre 15 jours et 3 semaines avec eux, et puis le commandement m'a demandé de rentrer. Quand j'étais prisonnier, la route, la RP41, ne passait pas très loin. Elle passait à peu près à 5 heures de marche, à peu près, de ce village. Et je me suis dit, je pourrais m'évader et aller au village. Ils m'auraient recueilli, quoi. Mais pour faire quoi et combien de temps et où et, donc, je ne l'ai pas fait, quoi. Mais je garde un souvenir ému de ce village, parce que les gens avaient été choqués par ce qui s'était passé. Et alors, les Viet Minh avaient pris la plus vieille du village, une vieille femme. Et donc, les villageois me disent, voilà, il faudrait récupérer cette vieille femme-là. C'était la grand-mère, quoi. Et donc, j'ai monté l'opération avec les gars du village. Hein. On leur avait amené des grenades et puis des fusils. On avait amené 2 ou 3 303, c'est des fusils anglais. Et donc, on a récupéré la... Je me suis fait tirer dessus à bout portant, pratiquement. Le Viet m'a loupé. La preuve, je suis là. Et donc, oui, et donc on a récupéré la vieille, cette pauvre vieille-là, et en redescendant sur un bambou avec, dans une toile, bon, elle est morte. Mais voilà la vie qu'on menait. Par exemple, dans une zone, donc, chez les Viet. Bon, quand c'était comme ça, moi, en tant que, nous, on était habillés, donc, je vous dis, en civil. Et mes gars avaient donc, mon commando, il n'y avait que des pistolets mitrailleurs, c'était des Sten. Vous savez, les Sten, c'est le pistolet mitrailleur anglais. Le gars de tête, il s'appelait Piang, il s'arrête, il me dit, chef, il y en a des Viennes devant. Alors, bon, les Viennes en question, c'était des coulis. Des paysans qui marchaient avec des charges, vous savez, sur le balancier. Et quand ils ont vu arriver les gens de chez nous, ils ont balancé leur balancier, ils les ont posés sur la piste, ils se sont sauvés dans la jungle. Ils portaient le ravitaillement d'un conseiller politique, Cambo, ça s'appelait. Je me suis mis à l'arrière, et donc Piang est allé le voir. Et donc, le conseiller politique, il avait un pistolet, et donc, quand il a demandé qui nous étions, quoi. Hein. Alors, Piang lui a dit, eh ben, on est Viet. Le gars, au bout d'un moment, il leur a dit, mais c'est pas possible, parce que les Viet, ils n'ont pas tous des pistolets mitrailleurs. Et il a sorti son pistolet, et donc, ils l'ont tué, quoi. Voilà. Et donc, on a récupéré, donc j'ai récupéré tous les papiers donc, politiques de la région, quoi, le conseil du... Voilà. Et donc, ça a été intéressant pour le commandement. On est parti de ce coin-là pour aller. Et on a décidé d'y revenir pour voir ce qu'ils avaient fait du commissaire politique qui était resté sur le bord de la piste. Il ne restait plus rien de lui. Les fourmis l'avaient mangé, complètement. Il ne restait que le squelette. Alors ça rigolait pas, hein. Il avait un chapeau scout, vous savez, le chapeau de... C'était un jeune gars, quoi, mais c'était un Vietnamien. Voilà, la vie en jungle. Alors ça, c'était mon premier séjour. Mais comme c'était plaisant et que j'ai engagé donc de 6 mois pour rester là sur le terrain. Et donc, j'ai été rapatrié à la mi-51, oui, c'est ça. Je suis arrivé en France, mi-51, en congé de fin de campagne, ça s'appelle CFC. Et là, j'ai décidé de faire autre chose. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai été affecté à la demi-brigade coloniale de commando parachutiste. Voilà. Mais j'avais une bonne expérience guerrière, si on peut appeler ça guerrière, voilà, mais opérationnelle. Et donc, à la formation, j'ai été affecté d'abord en Bretagne, c'était À Vannes, voilà. Et après, j'ai été affecté à Saint-Brieuc, hein, au 6e bataillon de parachutistes. Donc, que formait le capitaine, il était capitaine à l'époque, Bijard. Il est passé commandant à Saint-Brieuc. Voilà. L'encadrement, donc, c'était à peu près tous des gens qui avaient déjà fait un séjour, comme moi, mais dans d'autres bataillons, dans d'autres circonstances. Et puis, on recevait donc des jeunes engagés qui s'engageaient pour 3 ans, voilà quoi, des soldats qui s'engageaient chez les parachutistes. Et donc, tout ça, ça a duré jusqu'à la désignation du 6e bataillon de parachutistes pour servir en Extrême-Orient. Et on a pris la direction de Marseille, hein, pour embarquer, hein, en direction donc d'Indochine. Mais si la guerre avait continué 10 ans, on aurait renouvelé à chaque fois, hein, avec évidemment à moins ceux qui étaient morts. Et on est parti sur le bateau de transport, le Skogum. Voilà. Donc, comme au premier séjour, on est arrivé à Haïphong. Haïphong dirigé sur Hanoï. Hanoï, on a été hébergé, on a été au séminaire d'Hanoï. Donc, tout le bataillon a été logé là, en attendant d'avoir l'armement et tout. Parce qu'on partait, ça, on partait comme en tenue de ville, hein, en uniforme, sans rien. Hein. Le bataillon donc a été équipé, armement, tout ça, a été donc envoyé dans le delta, dans une partie du delta qui avait fait l'objet d'une grande bataille, c'est la bataille de Vinienne, où les Viet, en 50... Moi, j'étais encore en Indochine, je crois que c'était en 51, avaient failli prendre Hanoï. Et donc, c'était avant l'arrivée du général de Lade de Tassigny. Et donc, là, il s'était passé donc une très, très grande bataille, hein, où les Français avaient arrêté donc cette opération Viet Minh. Et donc, on a été envoyé dans ce secteur-là, hein, pour se familiariser avec le pays, d'une part, pour les soldats, puisque eux, ils débarquaient, hein, c'était leur premier séjour. Voilà, et donc on a dû passer plusieurs mois, là, 2-3 mois, dans ce coin à tournicoter, faire des petites opérations de reconnaissance et tout ça. Hein, et donc un jour, donc, on arrive maintenant aux opérations parachutées. Hein, on arrive à Hanoï, les Viet, donc à ce moment-là, commencent à manifester leur velléité d'offensive. Et l'offensive, donc, les Viet préparaient une offensive sur l'emplacement où j'étais, justement, sur Nyalo, hein, puisque je dépendais de Nyalo, moi. Le 6e bataillon a été bien d'alerte, aéroporté, afin de sauter sur un poste qui s'appelait Tulé, au nord de Nyalo, justement. Nyalo, Tulé, c'était un poste du premier bataillon, le bataillon où j'étais à mon premier séjour, mais qui était au nord. Au nord, il y avait 2 postes. Et donc, c'était la première opération du bataillon. Tous ces postes sont tombés et ils sont arrivés à Nyalo. C'est là où le 6 a été désigné donc pour sauter à Tulé. Au Vietnam, il y avait deux commandements. Il y avait un général qui commandait l'ensemble et un autre qui commandait le Tonkin. L'histoire du saut du Tulé, le premier saut, c'est-à-dire c'est le général qui commandait l'ensemble, c'est lui qui a demandé à ce que le bataillon soit largué. Hein? Et quand le bataillon était largué, le général qui commandait le Tonkin, lui, a demandé pourquoi. On avait dépêché, donc avait parachuté ce bataillon, alors lui était contre. Vous voyez, déjà au départ, il y avait quelques petits problèmes. Et donc, quand on est arrivé, donc les Viet étaient devant Nyalo, hein, il n'avait pas encore, Nyalo n'était pas tombé encore, et donc nous étions donc à Tulé, où il ne se passait rien. Alors on a fait des opérations d'éclairage un peu partout, surtout on est allé chez les Méo, enfin bref, voilà quoi. Jusqu'au moment où on a appris que le poste de Nyalo, était tombé. C'était un truc important avec un terrain d'aviation et tout, quoi. Et donc, à partir de là, on devenait opérationnel. Alors, la première opération donc, du 6, ça a été l'opération Tulé. On devait recueillir les gens qui étaient dans au poste de Géroy, qui étaient censés ne pas être suffisamment d'effectifs pour faire face. Donc, les Viettes attaquaient avec 3 divisions. Voyez, et nous, ben bon, les petits points d'appui, c'était tenu par des éléments relativement légers. Nous étions donc 666. On a sauté à 666. Une compagnie, c'est en gros 120. Il y a trois sections légères et une section lourde, en principe. La première compagnie qui était donc au sud du dispositif, donc ils ont accroché les Viettes, et les Viettes ne savaient pas qu'en face d'eux, il y avait une unité parachutiste. Ils pensaient avoir affaire donc à la garnison donc de Géroy, qui eux s'étaient repliés. Et donc nous, on s'est installé. Enfin, le Bijard a eu l'excellente idée donc de répartir le bataillon chez des positions différentes. Nous étions au nord du point d'appui Tulé, où était le PC de Bijard. Il avait une compagnie à Sabotte, une autre compagnie un peu plus haut dans la montagne, mais au sud. Et donc, les Viettes sont arrivés de nuit pour attaquer le poste. Et là, ils ont été surpris parce que nous, étant au-dessus, à peu près à 300 mètres, on les a appuyés. Alors donc, ils se sont dit, bon, ben, les paras se sont installés également sur le point d'appui. Et donc, ils ont essayé de nous déloger. Voilà. Donc, en fait, on les a arrêtés. C'est nous qui les avons arrêtés. Pendant toute la nuit, ils ont essayé de... Moi, j'ai tiré un caisson de carabine complet dans la nuit. Notre point d'appui était divisé en 2 mamelons. Donc, on s'appuyait les uns sur les autres, vous savez. Et eux, donc, ils essayaient de passer entre nous. Et donc, on les a arrêtés. Heureusement pour nous, les Viettes ne savaient pas, puisque les Viettes, c'était leur première... C'était des gens des Deltas, c'était des unités constituées de Vietnamiens des Deltas. Donc, ils étaient surpris, d'une part, par le combat en montagne, qui est différent de celui, de celui en plaine. Et donc, tout ça les surprenait un tout petit peu. Et leur commandement n'a pas pensé nous fermer l'entrée du col. Vous voyez, l'entrée de la piste qui nous menait au col. On avait quelques blessés, il y en avait 7 ou 8, peut-être une dizaine. Et donc, le commandant Bijard donc, espérait que des avions... Il y avait un petit terrain. Des petits avions venaient donc récupérer les blessés, qui, censément, ne pouvaient pas marcher. Et donc, on les a attendus toute la journée. Au lieu de décrocher, on a attendu l'avion, qui n'est pas venu. Ben en fait, il ne pouvait pas venir parce qu'il y avait du crachin et donc c'était impossible qu'il passe l'avion. Quand on est arrivé à l'entrée du col, les Viettes y étaient aussi. On a perdu presque 100 mecs qui sont restés sur le terrain, tués, prisonniers. Presque 90. Vous voyez, on a perdu. Ils ne sont pas rentrés avec nous. Les blessés qui étaient censés partir en avion, parce qu'ils ne pouvaient pas marcher, aucun d'eux n'a été fait prisonnier. Ça veut dire qu'ils ont suivi à pied. Il a fallu pratiquement, pour les rescapés, dont je faisais partie d'ailleurs, puisqu'on était les derniers, quand on est arrivé pratiquement au lever du jour, le col était très très haut, c'était très haut, et puis alors c'était les cols de montagne, je ne sais pas. Et donc le regroupement du bataillon s'est fait pratiquement au lever du jour. Et donc toute la nuit, on avait crapahuté dans le crachin parce qu'il pleuvait et c'était mouillé. À partir de là, on a commencé à prendre la piste qui nous amenait. La direction initiale, c'était la rivière Noire, qui était loin encore, ce qui était très loin. On a pris la piste et les Viettes nous ont rattrapés. Donc à chaque fois, c'était l'accrochage. Bon, l'arrière-garde se tirait sur l'avant-garde, en fait, à Viet Binh. Et donc, on est arrivé dans un premier petit poste qui était censé donc, retenir les Viettes, qui n'a pas pu les retenir. Et donc, on a marché plusieurs, plusieurs, je ne me souviens pas combien de jours, deux, trois jours et des nuits. Hein. On n'a pas dormi la nuit, on ne dormait pas dans ces cas-là. Et donc jusqu'à trouver la rivière Noire, voilà, et en direction de Sondela. Donc ça a été la première opération du 6e bataillon. Donc on est rentré avec, je vous dis, après avoir perdu sur le terrain à peu près 80, je ne peux pas dire le chiffre, c'est 88 ou 90, voilà quoi. À partir de cette date, les choses pour l'armée française ont changé littéralement. Parce que le Viet Minh, donc parti communiste, a demandé au parti communiste frère de l'aider. Dans mes deux séjours d'Indochine, j'ai vu évoluer la situation militaire. C'est-à-dire au début, à l'époque dont j'ai parlé au tout début, c'était encore que des guérilleros en face de nous. Et au fur et à mesure que le temps passait, les unités qui étaient formées en Chine, les divisions. Et donc, on les a trouvées sur le terrain. On les a trouvées en face de nous. Alors, pour la première prise, par exemple, de Nyalo, ils ont tenté à une division. Il y a eu deux, trois bataillons parachutistes qui ont été parachutés dans le coin, mais à Tulé, dont je viens de parler tout à l'heure, il y avait déjà deux à trois divisions. C'était grâce donc à l'ami chinois qui apportait tout le matériel nécessaire, d'une part, et toute la formation donnée par des Chinois qui avaient fait la guerre de Corée. Donc, à partir de Tulé, on a eu en face de nous des unités qui étaient bien commandées, bien encadrées et qui manœuvraient bien. J'ai participé. Donc, le second saut qu'on a réalisé, on l'a réalisé donc toujours au Pays Thaï. On a sauté donc sur le bord, le sixième a sauté à la bataille de Nassan. La bataille de Nassan, c'était l'aboutissement de la conquête Viet Minh du Pays Thaï, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, le 6 a été parachuté, en montagne d'ailleurs. On a sauté, ils nous ont largué à 90 mètres. Et donc, pour nous, c'est une opération qui a duré dans le secteur de Nassan 4 mois. C'est-à-dire 4 mois sans rentrer. Pas un seul jour de repos. Tous les ravitaillements nous étaient parachutés tous les 2-3 jours. Vous voyez ? Bon, les gens maintenant ne s'imaginent pas de ça. Même les vêtements étaient changés par parachutage. Et donc on est resté 4 mois dans le secteur de Nassan, à grenouiller un peu partout. On a repris Sondela, on a repris des trucs, ben on a fait pas mal d'opérations. Et de là, on est parti un mois au Laos. Donc on est resté 5 mois sans rentrer, sans un seul jour de repos. Enfin, le repos, on se reposait de temps en temps quand même. Voilà. Donc ça, c'est les conditions générales. C'était pour l'ensemble du bataillon, c'était relativement dur. Donc ça, c'est le deuxième saut. Alors le troisième saut, on a sauté donc à Langson. Langson, il s'agissait des grottes de Kilua. Kilua, c'est près de la mer, du golfe de Chine. Et donc, il y avait dans les grottes, là, il y avait des dépôts d'armement. Le commandement avait décidé de les détruire. Donc, on a sauté à deux bataillons, le 6 et le 8. On s'est replié de Langson jusqu'à la mer pour reprendre des bateaux de la marine. Voilà. Donc, ça, c'est la troisième opération qu'on a aéroportée. Entre-temps, on faisait des opérations terrestres. Donc la vie en général, c'était en permanence opération sur opération. Et donc l'avant-dernière opération, donc, ça a été le saut sur Dien Bien Phu, l'opération Castor. Le 6 donc, a eu comme mission de prendre le terrain d'aviation de Dien Bien Phu et le village. C'est-à-dire, il y a eu deux bataillons qui ont été largués. Le 2RCP, c'est-à-dire les chasseurs parachutistes, voilà. Eux, ils ont été largués donc, au sud. Ils n'ont rien pu faire, les pauvres, parce qu'ils ont été mal largués. Ça arrivait. Et nous avons pris donc Dien Bien Phu. Alors, ce que je voulais vous dire maintenant, en passant, parce que les gens s'imaginent qu'une opération est reportée, Hein. On met les gens dans un avion et puis on les fait sauter, quoi. C'est plus compliqué que ça. Hein. Une opération aéroportée, donc un bataillon, hein, avant de partir, a une mission à remplir. Le commandement, donc, répartit les missions sur le terrain. C'est-à-dire, il y en a un qui fera ça, telle compagnie attaquera le terrain d'aviation, l'autre attaquera un peu plus au sud, hein, le village, l'autre compagnie fera aussi, de telle sorte que dans les avions, pour que les gens se retrouvent comme il faut au sol, c'est-à-dire tous ceux qui doivent prendre le terrain d'aviation, voyez, donc sont répartis dans tous les avions. C'est-à-dire à l'embarquement, hein, vous avez ceux qui vont sauter les premiers, hein, donc c'est ceux qui seront au sud, voyez. Et puis ceux qui vont sauter au milieu de l'avion, ils vont sauter sur le village, et ceux qui doivent prendre le terrain d'aviation vont sauter au nord. Donc dans tous les avions, tout le bataillon est réparti comme ça. C'est-à-dire dans chaque avion, vous avez des gens qui doivent sauter la mission au sud, la mission au centre, la mission, voilà. Donc c'est très compliqué. Donc ça se fait avant l'embarquement. Hein. Voilà. Donc on a pris donc le terrain d'aviation, ça s'est très bien passé. On a eu quelques morts, quoi. On a eu des morts en l'air, on a eu des morts au sol. Et voilà. Donc voilà, ça c'était la prise de Dien Bien Phu. Et le deuxième saut, donc, c'est le 16 mars, alors que Dien Bien Phu commençait à perdre du terrain. On avait perdu donc le terrain qui était au nord, hein, et le point d'appui qui est à l'est. Et donc, on a été parachuté. On a été le dernier bataillon à sauter de jour. Après, les autres ont sauté de nuit. Donc, on a tous été, ça s'est terminé. Donc, pour nous, ça s'est mal terminé. Hein. Et donc, on a tous été faits prisonniers, ceux qui restaient. Et Bijard nous avait dit, voilà, bon, ben on saute à Dien Bien Phu, on y va, demain, on va partir, on va sauter. Mais attendez-vous à rentrer à pied. Voilà, donc au départ, on savait que, de toute façon, c'était plié. Donc, on savait très bien qu'on ne reviendrait pas. Ah ben bon, au moins en avion, on est revenu à pied. C'est marrant parce que, moi, je n'étais pas le seul à l'entendre, mais je ne l'ai jamais... Je n'ai jamais entendu répéter ça. Pourtant, ça nous a marqué. Vous voyez, quand on vous dit on saute, mais on rentre à pied, en général, ce n'était pas ce qui se passait habituellement. Voilà. Donc, bon, on était prêts à tout. Moi, dans ma compagnie, tous les chefs de section étaient tués ou blessés. Moi, j'ai été blessé. Tout l'encadrement, on a été blessé au moins une fois. Mais j'ai été blessé de nuit et fait prisonnier. J'étais avec ma section, là, en soutien du point d'appui. Moi, j'ai été blessé donc, par une grenade, hein, une grenade à manche. J'ai mis affilé des éclats partout. Hein, un qui m'a traversé l'omoplate, dans le poumon, tout ça. Dans les bras, j'avais des morceaux de bois. Les grenades à manche, ce qui est embêtant, c'est que le manche, il explose. Il vous envoie du bois brûlé partout, qui rentre comme des petites fléchettes. Et donc, j'étais rentré là pour me faire penser dans une soute, enfin, un abri, voilà. Et on perdait le terrain. Les Viettes, donc, sont arrivés et donc, on débouchait. D'abord, c'est un mec, un Viette qui portait un fusil mitrailleur. Vous voyez, il a lâché une rafale, et il est arrivé devant nous et il nous a demandé de sortir. C'était de nuit, hein. À Dien Bien Phu, tous les combats se sont déroulés de nuit, pas un seul de jour, hein. Sauf ce qu'on a fait, nous, puisqu'on a... Moi, la compagnie, nous, on a repris deux fois, il y en a. On a repris deux jours. Donc, là, j'ai été fait prisonnier. Alors, j'avais un copain qui, lui, était chef de section de mortier. Il avait son mortier qui était dans cette soute. Il n'avait plus d'obus. Donc, il était venu s'abriter là. Et donc, on a été pris ensemble. Et puis, on marchait. Donc, les Viettes nous ont poussés donc, pour partir toujours de nuit, hein, dans leur ligne. Et moi, je marchais, donc, moi, je pouvais marcher, j'étais blessé dans le dos, et en hauteur, j'avais pas les jambes, j'avais pas de problème. Et donc, tout d'un coup, j'ai vu mon copain, là, il s'appelait, comment, c'était un Parisien, je regrette, je ne l'ai jamais revu. Et donc, je l'ai vu tout d'un coup, il faisait un à gauche-gauche, hein, hein, pour quitter le groupe, et je me suis les suivi. Et donc, on est les deux seuls à être rentrés. Les autres ont été amenés, et puis bon, ben, dans les lignes viettes, et puis bon, ont disparu. Voilà. Et donc, c'est la première fois que j'ai été fait prisonnier. J'ai été repris le 7. Hein? Le 7, donc, on s'est rendu dans l'après-midi. Hein? Et donc, moi, je marchais sur la piste, j'étais peut-être à moins d'un kilomètre de Dien Bien Phu, là, je suivais la foule, les prisonniers, et puis je tombe sur deux gars de mon commando, des tailles, hein, de deux tailles. Et donc on est parti, on s'est évadé. On a quitté la colonne, et puis on a pris donc direction le sud. Et on est passé, et moi je l'ai dit souvent, mais jamais ça a été repris, nulle part. Et moi j'y suis passé. Hein. On est passé dans une unité, dans des emplacements, dans l'emplacement de 105, hein, de canons de 105. Les canons étaient déjà partis. Il y avait des montagnes de douille, vous savez, des étuis de rue. Hein. Il y avait des montagnes de douille, il y avait encore tous les fils téléphoniques et tout ça. Et on est allé plein sud, et donc on est arrivé sur la piste de. Qui aboutissait au point d'appui Isabelle, la pointe d'appui du Sud. Et on n'a pas pu passer. On a passé toute une nuit à attendre. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que Isabelle n'était pas tombée. Il est tombé le lendemain. Et donc, quand on s'est présenté, nous, devant la piste d'Isabelle, Isabelle, donc, tenait toujours. Donc, les Viettes étaient sur cette piste aussi. Donc, on n'a pas pu passer. Et donc, on s'est dit, on va essayer de même. Alors donc, on a passé une nuit à se reposer dans la Verte, et puis la nuit d'après, on s'est représenté devant la piste, et là c'était pareil, ils montaient les blessés, ils descendaient, c'est sur la piste, c'était impossible de passer. Alors mes mecs m'ont dit, il y en avait un qui était natif de Dien Bien Phu, du village de Dien Bien Phu, du sud. Et donc, il me dit, ben, les deux, on va aller au village, et puis on va prendre des vêtements civils, et puisqu'on est, moi j'étais en tenue camouflée, là, on était en tenue camouflée. Et donc, ils sont partis, donc, ils m'ont quitté. Moi, je suis resté tout seul, là, c'était dans un ruisseau, et donc j'ai attendu. Et puis, tout d'un coup, en fin d'après-midi, j'entends, voilà, ça y est, c'est les Viettes qui arrivent. Et donc, ils avaient été repris par les Viettes, et ils ont dit aux Viettes, ben, on a un Français avec nous, il est là. Et donc, ils sont venus me récupérer. Donc, j'étais pris la troisième fois. Voilà. Et donc j'étais regroupé. Et de là, j'ai fait toute la marche, donc direction le regroupement donc au nord à Tianjiao, et après l'RP41 jusqu'à la frontière d'Annam. C'est-à-dire, on a fait 300 ou 400 kilomètres à pied, voilà, de nuit. Donc un convoi, c'était à peu près 5 ou 6 sections de prisonniers. En gros, chaque section, c'était d'une trentaine de prisonniers. Et donc, moi, je ne pouvais pas m'évader. Et il y avait un Viet en tête de la section et un autre en queue. Donc je me suis évadé à la nage. Donc je suis parti de nuit. J'ai dû faire trois nuits de nage en descendant un cours d'eau. Je ne savais pas où on était. Et puis je l'ai quitté. Après j'ai fait un à gauche-gauche, c'est-à-dire direction l'est. Et donc, je suis arrivé sur le bord de la mer. J'étais pas très loin. Et là, j'étais repris. Mais on a tous connu une aventure. Vous savez, moi, c'est marrant parce que je l'ai dit, je répète. Quand j'étais prisonnier, j'ai eu pour la première fois une grande sensation de liberté. Ça peut étonner quand on dit ça. Mais j'ai toujours eu un commandement. Donc j'ai toujours eu des missions et un commandement. Et là, je me retrouvais tranquille, j'étais tout seul. Et donc, voilà quoi. Donc j'étais repris sur le bord de la mer. J'ai été envoyé dans un camp. Dans un camp de prisonniers, qui était un camp spécial. C'était pas, j'étais le seul européen. Je me suis retrouvé seul. C'était un camp qui était réservé aux officiers vietnamiens, cambodgiens et laotiens. Alors ils étaient à peu près une cinquantaine, peut-être moins, peut-être plus, je sais pas. Ils avaient un carcan en bois autour du cou et ils étaient enchaînés aux pieds. Et les gars, ils étaient en short, enfin en short, ils étaient quasiment à poil, quoi. Et donc, le matin, moi je les voyais le matin parce que j'ai fait toute ma captivité donc, dans ce camp-là. La sentinelle m'a mené aux toilettes qui étaient en dehors du village. Et donc, c'est là que je croisais ces gens-là, quoi. Je me suis fait passer pour aviateur parce que j'avais un chronomètre, moi, un chronomètre dans l'armée allemande. Et puis, quand j'ai été repris, je ne voulais pas dire que je venais de Dien Bien Phu parce que là, j'aurais morflé. Hein. Et donc, j'aurais dit que j'étais aviateur, que mon avion s'était abattu dans la chaîne anamitique. Hein, et donc, ça les intéressait de retrouver l'avion. Donc, j'ai subi plusieurs interrogatoires, hein, devant une carte et tout ça. Évidemment, je n'avais pas d'avion. J'ai passé toute ma captivité là. J'étais tout seul comme Européen, tout seul. Voilà. Et j'ai eu la chance parce que dans les camps de prisonniers, les autres mangeaient du riz. Et moi, dans ce camp-là, j'avais des lentilles. Des lentilles et du chien. À tous les repas. Enfin, tous les repas. On va appeler ça des repas. Et donc, j'étais en parfaite forme. Quand la guerre s'est terminée, le chef de camp m'a rappelé, il m'a rendu mon chronomètre, que j'ai perdu au saut. C'était un chronomètre de la Luftwaffe, il était bien. Pour ça, je voulais passer pour aviateur. J'avais un chronomètre, c'était rare à l'époque. Et donc, on m'a renvoyé donc, dans les camps du 3e interzone. Et je suis tombé donc, sur des Européens hein, qui étaient habillés en Viet et qui étaient des déserteurs d'armée française. Et alors, il y en a un qui m'a interrogé. Hein, il m'a dit d'où tu viens? Ben, je lui ai dit, moi je viens de. Voilà, j'en sais rien, j'étais dans un camp. Oui, mais t'es pris où, tout ça? Et de quelle arme tu es? Je suis aviateur. Ah, il me dit, t'étais où? Ben, je lui ai dit, à Cadby. Cadby, c'est le grand terrain d'aviation de l'aéronaval à Haïphong. Ah, il me dit, tu connais un tel? Je lui ai dit, non. Et tu connais un tel? J'ai dit, oui, comme ça. Puis au bout d'un moment, il m'a dit, t'es pas vrai, t'es un menteur, dis-nous d'où tu viens. Et donc voilà, quoi. J'ai eu des problèmes avec ces salopards-là. Et c'est eux qui m'ont fait boire de l'eau du fleuve. Alors donc, le camp du 3e interzone, où j'ai été affecté, si on peut parler d'affectation, hein, j'ai eu des problèmes avec les Viettes, avec des déserteurs. Hein. Et donc, la guerre était finie. Hein. Et donc, tous les gens ont été libérés. Et je me suis retrouvé tout seul. Et à poil, parce que moi, je me suis évadé à poil. Hein. Je me suis évadé en caleçon. J'avais rien d'autre. J'étais prisonnier tout le temps à poil. Hein. J'avais juste un caleçon. Et un pull-over américain, avec trois boutons, là. Hein. J'avais gardé mon pull-over pour la nuit, pour dormir la nuit. La journée, je veux dire. Puisque la nuit, c'était en l'eau. Et donc, j'étais obligé de lui dire je venais de Dien Bien Phu, quoi. Voilà. Ils m'ont renvoyé donc dans une baraque qui était le long du fleuve. Ils étaient deux déserteurs, un Français et un Antillais. Hein. Et bon, j'ai eu pas mal de conversations avec eux parce qu'ils savaient que nous, j'étais encore très en forme là. Hein, qu'on allait être libérés, fatalement, on allait partir. Eux, non. Eux, ils ne savaient pas, leur avenir était bouché, ils avaient déserté l'armée française, hein, et les Viettes, ils savaient bien que les Viettes n'allaient pas les garder. Et donc, bon, ils m'ont mis dans une baraque à côté de la leur, et enfermé, et ils m'ont fait boire de l'eau du fleuve. Donc, au lieu de faire bouillir l'eau, vous savez, pour tuer les amibes, hein, ils m'ont filé à dysenterie, mais en quelques jours, ça a été une catastrophe. Une catastrophe, je vous dis, moi j'étais... Quand j'ai été libéré, j'étais à quelques jours de... Ah oui, oui. Et d'ailleurs, au bout d'un certain temps, quoi, et la guerre était finie déjà, hein, au bout d'un certain temps, ils me disent, bon, ben écoute, tu prends la piste, et puis tu la suis, il y a un camp de prisonniers, c'était le camp, donc le camp 70, ou je ne sais pas quoi, là. Voilà. Je suis allé tout seul, mais tous les 50 mètres, je posais culotte. Hein. Je me vidais littéralement. Je savais que s'ils ne me libéraient pas, je mourrais. Ça, c'était net. Hein. C'est-à-dire, quand j'étais couché, j'y voyais. Dès que je me levais, j'avais un voile noir. Ce n'était pas facile. Mais quand vous êtes très malade, que vous savez que vous allez crever, et que les choses tournent en longueur, qu'ils ne veulent pas vous rendre, vous ne savez pas. Et puis, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on a vu? Un officier de marine. Voilà. Un officier de marine, c'était un médecin. Et donc, tout de suite, il nous a mis des étiquettes. Moi, j'étais en première urgence. Et donc, on s'est dit, quand on a vu le marin, on s'est dit, ça y est, on rentre à la maison, quoi. Voilà. Et donc, oui, ben là, on a marqué sur les bateaux. Mais les marins pleuraient. Vous voyez dans l'état où on était. Ah oui, il y avait des mecs, c'était pas possible. Moi, je pesais, je sais pas moi, 50 kilos, quoi. J'ai toujours mon carnet, on faisait 40 sels par jour, dysenterie, avitaminose, tout ça. Ça faisait 5 mois qu'on n'avait pas mangé de sucre, qu'on n'avait pas eu de sucre, qu'on n'avait pas eu de graisse, qu'on n'avait pas. Vous voyez, on n'avait rien eu. Et moi, j'avais eu la chance de manger des lentilles et du porc, mais les autres, non. Ils m'auraient filé, je ne sais pas, n'importe quoi, je l'aurais mangé quand même. Oui, oui, voilà la fin de l'histoire. La guerre s'est terminée, je crois, en juillet. Moi, j'ai pris le bateau le 11 novembre. Je suis arrivé chez moi un peu avant Noël. Oui. Donc, dans mes deux séjours, ça fait presque 5 ans. 5 ans de présence sur le terrain, 5 ans opérationnels. Je peux constater que prisonnier, c'était opérationnel. Quand vous vivez dans une situation, bon, je dirais de guerre, hein, et que vous êtes entouré des gens en armes, que vous-même, vous avez en permanence une arme, pendant 5 ans ou presque, voyez, vous n'êtes plus le même. Vous n'êtes plus le même. Je n'ai que des bons souvenirs. Oui, oui. Et bon, j'ai été interviewé par une journaliste qui venait d'Hanoï. On a parlé de tout ça. Mais moi, je lui ai dit, on a fait la guerre sans haine. Moi, je ne connais pas la haine. Vous voyez, j'ai fait la guerre sans haine. Et c'était particulier. Oui, oui. Alors, bon, mon fils me dit, oui, mais tu t'es pas battu pour la France. Bon, ben, moi, je me suis battu pour l'armée française. On m'a posé aussi la question, vous êtes battu pour le drapeau? Il dit non, moi, je me suis jamais battu pour le drapeau. Je me suis battu pour l'honneur des parachutistes. C'est tout. Eh oui, donc je suis resté dans les parachutistes jusqu'à 62, 63 ans. Ça a été intéressant, je me suis occupé du journal Béret Rouge, j'ai eu la responsabilité, par exemple, quand j'étais en zone équatoriale, de toutes les DZ, des quatre républiques, du Congo, de Centrafrique, enfin bon, voilà, j'étais à l'état-major, après j'ai été major de camp, mais j'ai eu que des emplois intéressants, quoi. Bon. Et en plus, j'ai eu la chance bon, d'être décoré de la Légion d'honneur en rentrant d'Indochine. Et à ce moment-là, bon, on ne pouvait pas me donner des emplois. Je sortais un peu, si vous voulez, du cadre. Voilà. Et donc, j'ai eu cette chance-là. Je crois que je suis le premier sous-officier décoré de la Légion d'honneur en rentrant d'Indochine. Parce que ceux qui étaient passés avant moi, qui avaient des séjours, n'avaient pas eu les mêmes opérations. Donc, ils n'avaient pas eu autant de titres. J'ai 11 titres de guerre, donc 5 palmes. Moi, j'étais incommandable. On ne pouvait pas m'affecter à un sous-lieutenant ou dans une section, un truc comme ça. D'autant plus que, bon, je ne voulais pas faire carrière. La guerre finie, c'est pas intéressant. Non, mais l'armée, c'est formidable. Moi, ça sera à refaire, je referai pareil. Je regrette rien. Mais la vie militaire est formidable. La vie militaire est formidable. Parce qu'on rencontre des gens qu'on ne rencontre pas dans le civil. C'est-à-dire que surtout dans des périodes difficiles. C'est là où on rencontre des gens qui vous conviennent. On a le même idéal. On a envie des mêmes choses. Oui, oui, la vie militaire, bon, ben, voilà quoi. Bon, il faut savoir qu'il y a des risques, surtout s'il y a la guerre. S'il n'y a pas de guerre, c'est du fonctionnariat. Mais il faut dire qu'une unité opérationnelle, c'est formidable. Voilà. Alors, il y a guerre et guerre. Bon, par exemple, moi, je fais la différence entre la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. Bon, je vous dis, la guerre d'Indochine, on a fini la guerre face à au moins 5 divisions. Vous voyez, alors qu'en Algérie, il y avait des katibas, quoi. C'était des petits éléments. Donc, c'était gentillé, quoi. Donc, il s'échangeait quelques coups de temps en temps. Souvent, des coups qui finissaient mal, des deux côtés. Mais moi, j'ai perdu mon radio. Et donc, qui est mort à côté de moi. C'est un appelé, un Parisien, il a été tué. Et donc, voilà, quoi. Mais l'Indochine, c'était particulier, quoi. Parce qu'on était là, mais on était avec l'autre et les autres. Mais 24 heures sur 24, tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il n'y avait pas de dimanche, il n'y avait pas de fête, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait même pas d'enterrement. Les morts qu'on a eus, je vous dis, on les a laissés sur la piste, sur le bord de la piste. On ne peut pas les porter. Vous ne pouvez pas porter quand vous avez 50 km à faire. Oui, oui. Enfin, voilà, quoi.